quatrième et dernier temps de notre série sur l'histoire des rêves dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, nous débattons des rapports profonds, parfois complexes toujours, qu'entretiennent psychanalyse et histoire. Après vous avoir parlé hier des rêves médiévaux et modernes en compagnie de Gisèle Besson et de Juliette Lancel, lançons-nous ce matin dans les 19e, 20e et 21e siècles en nous demandant comment cohabitent et se nourrissent l'une l'autre la psychanalyse et l'histoire. Nous le ferons en compagnie d'Anaïs Quien de la Fabrique de l'Histoire, de Jacqueline Carrois, les directrices d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre Alexandre Coiret d'Histoire des sciences et auteur de Nuits savantes, c'était en 2012, une histoire des rêves entre 1800 et 1940. Andreas Meyer est également avec nous, il est directeur de recherche au CNRS, co-auteur avec Lia Marinelli de Rêver avec Freud chez Aubier. Il est également au Centre Alexandre Coiret d'Histoire des sciences et avec nous également Hervé Mazurel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, co-animateur de la revue Sensibilité et qui prépare un livre pour l'année prochaine à la découverte, l'inconscient et l'histoire, essai d'histoire des profondeurs. Mais vous le savez, tous les jeudis, il y a toujours un épisode de notre feuilleton, la fabrique de l'histoire de scolaire dans laquelle nous nous attachons à essayer de comprendre comment on enseigne l'histoire aujourd'hui dans les classes, que ce soit dans les classes de primaire ou de secondaire. Et c'est un feuilleton conçu par Séverine Attard. Un nouvel épisode aujourd'hui.
Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 1768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie.
L'état de Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez?
L'état de Saint-Empire, oh, tout est prévu.
Est-ce que vous me voyez?
La fabrique de l'histoire scolaire.
Vous m'écoutez, s'il vous plaît?
Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre.
Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui.
Mélissa Azaïch est chargée des projets pédagogiques au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Elle accueille aujourd'hui les élèves de CM2 de l'école primaire Romainville dans le 19e arrondissement à Paris. Ils viennent pour le dernier atelier du parcours Citoyenneté et Histoire de l'Immigration proposé par le musée et la mairie de Paris.
Regroupez-vous s'il vous plaît. Donc là, c'est la dernière fois que vous venez au musée, d'accord? Qu'est-ce qu'on a fait la première fois que vous êtes venu? Vous en souvenez ou pas?
On a travaillé sur l'immigration et l'émigration.
Oui, et qu'est-ce que vous avez produit dans cet atelier?
Un cahier.
Un cahier. Il y avait quoi dedans?
On avait des personnages à choisir, oui. Et on parlait d'eux et on faisait des coupages dessus et on mettait des informations. Oui. C'était comme un carnet de voyage.
C'était comme un carnet de voyage. Carnet d'exil, ouais. Qui étaient les personnages qu'il y avait dans votre carnet? Toi, c'était quoi le personnage?
Moi, c'était un enfant. Ça parlait sur le sujet de la valise.
Oui, c'est vrai que tu devais imaginer ce qu'il avait ramené dans sa valise, par exemple.
Qu'est-ce que tu fais? Il y avait aussi la grand-mère et son petit-fils qui venaient d'arriver en France.
Voilà, c'est ça. Sur la photo que tu avais choisie, c'était un petit garçon qui venait du Portugal, je crois.
Et il y avait la petite fille qui venait de je ne sais plus quel pays, je crois que c'était... Du Liban, et qui arrive avec sa valise, et il faut aller en fait imaginer son parcours et sa vie quand elle arrive, ce qui se passe.
Très bien. La deuxième fois, qu'est-ce que vous avez fait?
On est monté voir une exposition avec la valise de.
De Soumira Sam.
Voilà.
Oui. Il y avait aussi une vidéo avec une mère qui n'arrivait pas à parler avec sa petite fille.
Oui.
Une grand-mère qui n'arrivait pas à parler avec sa petite fille. Donc après, il y avait une traductrice qui les traduisait tout.
Oui, c'est vrai. La vidéo où la petite fille, elle parle une langue et la grand-mère, elle parle une autre et la mère, elle parle les deux langues. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose?
Après, on est parti à la médiathèque.
Oui, ça, c'est la troisième séance. Qu'est-ce que vous avez fait à la médiathèque?
On a lu des livres.
Oui, vous avez lu des livres. Il y avait qui d'autre?
Il y avait une bibliothécaire.
Oui, il y avait une conteuse aussi.
Et on devait lire devant... on devait lire chacun un livre devant les autres.
Donc, chacun, vous deviez à plusieurs trouver une histoire, raconter l'histoire, super. Et la dernière fois que vous êtes venu faire quoi?
On a regardé un film.
Oui.
Ça parlait d'un enfant chilien.
Oui.
Il vivait en France.
Oui, il y avait un enfant chilien, il y avait un autre petit garçon. qui vivait dans une usine, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y restait dans cette usine? Est-ce qu'il devait déménager?
Sa famille, elle était marocaine. Ouais. Et elle devait travailler dans une usine. Ouais. Et celui qui avait acheté l'usine, il allait la vendre. Voilà. Non, il allait la déplacer.
C'est ça, il allait la déplacer. Il allait changer de région. Et donc, ce petit garçon qui vivait là avec ses parents, il était obligé de déménager et donc on avait la vie du petit garçon. Qu'est-ce qui se passait dans le film? On voyait là où il allait à l'école, ses copains, ses jeux, etc. Et il y avait plein d'enfants qui venaient d'un peu partout. Ok. Et donc là, aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on va faire aujourd'hui?
On va faire une exposition.
Comment elle s'appelle l'expo?
Oh, je sais.
Non, c'est... Ciao
Italia.
Ciao Italia.
Ciao Italia, ça se traduit par au revoir l'Italie, donc ça doit vouloir parler des immigrés italiens.
Donc là, c'est la dernière fois que vous venez au musée. Vous allez voir autre chose, c'est encore très différent. Bon, c'est toujours sur l'immigration, mais c'est sur l'immigration italienne en France. Vous allez voir dans l'exposition, il y a des tableaux. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce qu'on va voir?
Des statues.
Des statues, ouais, il y a des sculptures. Quoi d'autre?
Des textes.
Des textes. Quoi d'autre?
Des livres.
Des livres peut-être, ouais. Des photos. Vous, l'Italie, ça vous fait penser à quoi quand vous pensez à l'Italie?
La pizza.
L'Italie, moi, ça me fait penser à la Méditerranée.
Ça me fait penser aux empires romains.
Ah oui, alors ça, c'est les très anciens, mais t'as raison, c'est italien aussi.
Miss Fandes, vous êtes institutrice de cette classe de CM2. Et donc, c'est un projet qui a duré 2 mois, parce qu'il n'y avait pas uniquement la visite de l'exposition.
Voilà, c'est ça. On a commencé les visites au mois de janvier. On a eu 3 semaines successives avec des visites toutes les semaines, et puis un peu en décalé au début, comme l'exposition vient d'ouvrir, la visite de l'exposition temporaire.
Vous trouvez que c'est intéressant du coup pour vous, pour le travail que vous faites en...
Oui, c'est très intéressant, puis c'est très transversal. Donc je peux aborder plusieurs disciplines à travers ce projet-là. Et on élargit du coup aussi aux questions d'actualité, avec les questions d'immigration actuelle. Et puis je travaille pas mal sur la presse, donc c'est des choses qui reviennent aussi beaucoup. Et donc on peut faire le lien, et voilà. Et puis là, l'immigration, je crois que le sous-titre de l'exposition, c'est « Ces Italiens qui ont construit la France ». Donc c'est ça aussi qui fait du sens aujourd'hui pour mes élèves.
Voilà pour ce nouvel épisode de notre série, notre feuilleton La Fabrique de l'Histoire scolaire, dans lequel nous nous attachons à comprendre comment on enseigne réellement l'histoire en France. Aujourd'hui, une série conçue par Séverine Yatar et que vous pouvez télécharger séparément de l'émission du jour.
I started my professional activity as a neurologist.
J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. La résistance a été forte et implacable. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie.
Voilà l'extrait donc de cet enregistrement, le seul d'après ce que l'on croit savoir de Sigmund Freud. C'était à Londres pour la BBC le 7 décembre 1938. Bonjour Anaïs Kian.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bonjour à vous Jacqueline Carroix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour Hervé Mazurel.
Bonjour.
Et bonjour à vous Andreas Meyer.
Bonjour.
Alors cet entretien donné, enfin ce court extrait d'entretien donc donné par Sigmund Freud à la BBC nous dit bien qu'effectivement le fondateur de la psychanalyse se vivait un an avant sa mort comme étant en résistance, pourrait-on dire, et qu'il était cerné d'ennemis nombreux qu'il s'agissait de vaincre.
Oui, tout à fait. Bon, Freud avait créé, on le sait, donc une institution mondiale, un mouvement mondial, donc avec la psychanalyse, non seulement une science. Et c'est ce qu'il ne dit pas, mais bon, il se sent à la fin de sa vie aussi isolé de ce mouvement qui a créé nombre de dissidents, comme on sait, qui se sont séparés de lui, Jung, Adler. Plus tard, Otto Rank, avec beaucoup de disciples qui créent leur propre mouvement, hein, leur propre démarche. Et bon, Freud revient aussi, je pense que c'est très important, in uce, on pourrait dire, il donne une vision de l'histoire qui est la vision que la psychanalyse crée de la résistance et que c'est cette résistance que naît, qui prouve sa vérité en quelque sorte.
Et pourquoi et comment imagine-t-il justement cette idée que la psychanalyse invente une résistance pour ceux qui s'y adonnent, en l'occurrence Andreas Meyer?
Bah, ça c'est compliqué, donc il faut remonter un peu à l'émergence de la psychanalyse, à l'hypnose, à la suggestion, où on trouve déjà cette idée que bon, le patient résiste. Donc à être mis, bon, pas encore sur les divans, parce qu'on n'hypnotisait pas forcément sur les divans, mais souvent. Donc il y a cette résistance affective de se soumettre. Donc c'est une question de pouvoir, finalement, qui va être en jeu, à renoncer à ces symptômes qui créent du plaisir ou de la jouissance. Donc voilà, et c'est là où Freud va trouver la question de l'infantile, du désir infantile, qui va mener à sa fameuse théorie du désir et du rêve.
Jacqueline Carrois, si effectivement on reprend au pied de la lettre ce terme de résistance, il y a beaucoup de disciplines qui ont régulièrement résisté à la psychanalyse et qui ont tenté de faire barrage à l'arrivée de cette discipline et de cette science, en l'occurrence. Et l'histoire en fait partie, même si dans les années 1960 et 1970, certains historiens et certaines historiennes ont tenté de faire la jonction entre les deux disciplines, Jacqueline Carrois.
Alors, peut-être déjà qu'il faudrait remettre un peu en cause le terme de résistance, parce qu'on voit bien que c'est un terme qui vient des psychanalystes. Mmh. Et à certains égards, il faudrait peut-être parler en termes de réception. Mmh. Enfin, bon, voilà. Alors, oui, effectivement, dans les années 70, il y a eu tout un grand mouvement autour évidemment, de la domination de la psychanalyse en France, qui était à ce moment-là culturellement, enfin, vraiment très forte.
On se souvient des nombres de couvertures du Nouvel Observateur, en particulier autour de ces questions-là dans les années 70.
Donc, effectivement, il y avait un certain nombre d'historiens qui voulaient appliquer, il faut bien dire, la psychanalyse à un certain nombre de phénomènes sociaux, comme Alain Besançon, par exemple. Alors, la question pourrait se poser, au fond, est-ce que c'était légitime? Et eux-mêmes, d'ailleurs, maintenant, sont très critiques par rapport à leurs livres antérieurs.
C'est le cas aussi de Saul Friedlander,
oui, absolument,
effectivement,
absolument.
Qui considère que les deux livres qu'il a consacrés à cette question-là sont des livres à mettre à part dans sa bibliographie, en tous les cas.
Donc, on est dans une situation paradoxale où, au fond, on évoque une époque où les auteurs ne soutiennent plus leurs livres, enfin ne les défendent plus. C'est assez paradoxal.
Mais au-delà de la légitimité, vous mettez en cause la question de la légitimité, mais peut-être que simplement ce désir d'expérience, de croisement de la psychanalyse et de l'histoire devait avoir lieu peut-être aussi à ce moment-là, dans les années 70, où finalement la psychanalyse devient dominante. Emmanuel, vous avez cité les articles de presse, mais même institutionnellement, c'est un moment où académiquement, la psychologie entre à l'université, on crée des diplômes. Donc finalement, cette expérience intellectuelle qui va s'avérer un échec, finalement, n'est pas tout à fait légitime dans le champ dans lequel elle éclot.
Oui, bien sûr, il faut contextualiser tout à fait cette cette époque, enfin ces positions. Je suis d'accord avec vous, c'est pas seulement une bizarrerie de l'histoire, on est bien d'accord.
La bizarrerie, c'est peut-être le reniement de ces auteurs qui ont tenté cette expérience et qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de leurs ouvrages.
On peut peut-être dire aussi qu'on est dans un nouveau contexte actuellement qui fait qu'on ne peut plus soutenir ce qu'ils soutenaient. Donc, vous voyez, il faut le situer aussi dans une histoire, je dirais, culturelle.
Et en quoi, justement, Andreas Maier, cette tentative de rapprochement entre historien et psychanalyste dans les années 60 et les années 70, était-elle un échec, selon vous? C'était le mode d'approche, la façon dont les historiens se sont penchés sur cette question psychanalytique qui ne fonctionnait pas, qui ne marchait pas, et au bout du compte, peut-être une application un peu trop stricte des doctrines psychanalytiques et qui n'a pas marché, qui n'a pas aidé, disons, l'histoire a avancé, Andreas Maier?
Moi, je pense... Bon, il faut peut-être distinguer un peu les approches, d'abord. Donc, il y avait donc quand même le courant très fort de la psychohistoire, hein, qui a été après propagé aussi en France, donc et discuté donc, par Besançon, et qui reposait fortement donc, sur le versant de la ego psychology, donc de la psychologie du moi, donc quand même d'une version partielle, controversée au sein de l'institution, mais fortement dominante dans les années 40-60. Et voilà, donc confusion entre psychanalyse, donc entre analyse et biographie, le genre biographique. Bon, l'étude de cas y invite en tant que genre qu'on confond donc biographie et étude de cas. Donc je pense que c'est le biographisme sous-jacent, soit-il psychanalytique ou non, hein, qui fait problème. Donc il faut se débarrasser, et en fait on s'est débarrassé aujourd'hui, je pense, au moins dans la...
De cette approche-là, en tous les cas.
De cette approche-là.
Hervé Mazurel, vous n'êtes pas encore intervenu.
Oui, mais moi je pense que cette période, elle est marquée surtout par des pratiques un peu de captation sauvage des concepts de la psychanalyse, et certains les ont utilisés sans assez de précaution dans le champ de l'histoire. Et c'est vrai que, par exemple, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été emmené par Alain Besançon dans ce mouvement-là, s'en veut aussi également, et pas seulement Saül Friedlander, et Alain Besançon, mais également Emmanuel Leroy-Ladurie. Et de fait, emmener les concepts de la psychanalyse, les embarquer, ça produit bien souvent des anachronismes psychologiques. C'est pour ça qu'un Georges Duby, ou même plutôt que ça, un Lucien Febvre, était assez rétif à l'usage de la psychanalyse. Lucien Febvre disait « Freud, penseur subtil, mais de peu d'usage pour l'histoire ». Je ne suis pas tout à fait en phase avec ça. Mais néanmoins, voilà, il y avait une réticence bien compréhensible parce que pour eux, la psychanalyse était porteuse d'anachronismes psychologiques à de grande ampleur. Voilà. Donc, je pense qu'il y a de ça. Maintenant, dans les années 70, il y a aussi Michel de Certeau, il y a certaines analyses de Georges Devreux que moi je trouve intéressantes et parfois figurantes. Il y a quand même des choses qui restent malgré tout.
Anaïs Quin.
Oui, vous êtes en train d'écrire un ouvrage, vous êtes en train d'essayer de construire l'inconscient comme un objet historique, comme un objet travaillé par l'histoire, Hervé Mazurel. Et donc vous avez une attention accrue justement à ces expériences historiques qui sont révélées être des échecs. Finalement, qu'a-t-on proposé jusqu'ici, du point de vue de l'histoire, qu'a-t-on proposé de faire de cet inconscient qui paraît être quelque chose d'immuable, qui dépasse y compris les classes sociales ou les moments historiques que l'on traverse?
Je pense que là où ce qui a été très difficile pour Alain Besançon, c'est parce qu'en fait l'inconscient comme objet d'histoire a existé dès 1974, dans Faire de l'histoire, il y a une entrée inconscient, il faisait partie des nouveaux objets de l'histoire, des nouveaux territoires de l'historien, et c'est à Alain Besançon qu'a été donné cet article-là. Et 4 ans plus tard, il arrête tout, hein, mais il a fait de l'inconscient quelque chose de stable, de monotone, de fixe, qui ne change pas selon les époques, qui ne change pas selon les individus. Bref, c'est toujours les mêmes figures primordiales qu'on retrouve, les mêmes complexes. Et à la fin, il a dû se trouver face à une histoire immobile, quasiment.
C'était d'ailleurs une période où on parlait d'histoire immobile
avec le roi de la durée.
Et donc l'inconscient a paralysé l'histoire
en quelque sorte, parce qu'en fait c'était un inconscient très structural qui n'était pas du tout sans aucune historicité. Il n'y a pas d'historicité de l'inconscient. Il me semble qu'on devrait reprendre les choses justement précisément à l'envers.
Et voilà. C'est ce que vous faites aussi l'un et l'autre, Andreas Maier et Jacqueline Carroix, que d'historiciser justement cette question de l'inconscient et la psychanalyse en tant que telle. D'ailleurs, Andreas Maier, Freud lui-même n'était pas hostile à cette historicisation, c'est-à-dire qu'il avait conçu lui-même une certaine souplesse de ses concepts qui, entre 1899 et 1939, sa mort, ont profondément évolué. Peut-être ce sont ses élèves qui les ont figés dans une sorte de temps immobile, mais lui-même avait bien vu que les concepts psychanalytiques pouvaient évoluer en fonction des contextes.
Absolument. Donc, on a chez Freud un sens aigu de l'histoire, déjà. Et bon, c'est Freud lui-même qui disait qu'on explique la psychanalyse, que la meilleure façon de l'expliquer, c'est par son histoire. C'est par l'histoire de son émergence, à partir de l'hypnose, à partir des échecs aussi.
À partir de ce qui s'était passé avant l'arrivée de Freud, voilà. et de ce qu'il avait récupéré des autres.
Voilà, et avant ce qu'on a un peu, de façon hagiographique ou mythographique, présenté comme une grande rupture.
Oui, c'est ça.
En fait, cette grande rupture n'a jamais eu lieu. Hein. Et il faut bien voir que les ruptures sont institutionnelles dans l'histoire de la psychanalyse. Hein. Donc, par exemple, la notion de désir évolue. Hein. En fait, pour Freud, la théorie du rêve, par exemple, autour de 1900, est quand même différente que 14 ans après. La distinction avec le complexe d'Édipe se fait sentir. Hein.
D'ailleurs, peut-être, Andreas Meyer, on a tendance, dans la vulgate freudienne, à penser à un Freud très immobile, qui ne bouge pas. Je voudrais vous lire une petite citation que j'ai trouvée ce matin en préparant l'émission. Donc, c'est une citation à escalier, puisque c'est Joan Scott qui cite le psychanalyste israélien Eran Rolnick à propos d'une conférence faite par Freud en 1907, donc avant la Première Guerre mondiale, lors de la rencontre de la Société psychanalytique de Vienne, le 27 mars 1907. Il dit « Parmi ceux qui cherchent à fuir les angoisses du présent en recourant aux certitudes supposées du passé, Freud distingue trois groupes. Les amants qui ne peuvent supporter l'idée que l'état présent est nouveau et s'empressent de croire qu'ils se connaissent depuis bien longtemps. Les hystériques qui peuvent remplacer les fantasmes auto-érotiques de l'enfance par des fantasmes de séduction. Et les historiens, ces professionnels qui projettent les observations de leur époque et les transfèrent sur le passé. » Mais là, on se trouve en amont de cette Première Guerre mondiale, qui, malgré tout, va faire bouger quelques lignes pour Freud.
Andreas Meyer.
Oui, absolument. Bon, c'est des apocryphes hein, qu'on a là, si Freud l'a dit ou non.
On n'en est pas sûr, vous voulez dire ?
Pas trop, non, mais de toute façon...
C'est plutôt une synthèse de la pensée de Freud,
voilà,
par un de nos contemporains.
Oui, tout à fait, mais absolument. Bon, la psychanalyse a toujours eu du mal à penser les événements... historique ou politique de son temps. Donc Freud, face à la Première Guerre mondiale, donc on connaît son texte sur la guerre, la mort, on va l'expliquer en termes de horde primitive et sauvage, donc qui réveille les atavismes. Donc, donc voilà, c'est un modèle de la psychologie des foules qui, quand même, aujourd'hui, est dépassé et largement problématique.
Est-ce que c'est si dépassé que ça ?
Bah, à mon avis, oui. Je ne sais pas ce qu'en pense.
Jacqueline Carroy.
Plutôt, à quel endroit est-ce dépassé ? À quel endroit ça ne l'est peut-être pas encore tout à fait.
C'est-à-dire que la psychologie des foules, c'est quand même très, très marqué, aussi bien avant Freud que pour Freud. Le Bon, par exemple, ça vient quand même de Gustave Le Bon et de Gabriel Tarde. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse se référer trop à Le Bon et Gabriel Tarde.
À cause des usages qui ont été faits de cette psychologie des foules,
absolument,
au XXe siècle en particulier.
Oui. Et probablement, il n'y a jamais de foule en tant que telle. Il y a toujours des foules d'ouvriers, des foules de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce qui est peut-être, ce qui fait problème, c'est de généraliser.
Hervé Mazurel, vous qui êtes par ailleurs historien de la guerre et des guerres du 19e siècle, et en particulier de celle qui a conduit des volontaires français à se rendre dans l'Empire ottoman pour libérer la Grèce, c'est ce qu'ils voulaient en tous les cas au début du 19e siècle, cette question justement des évolutions de la pensée de Freud en fonction du contexte historique et en particulier de cette Première Guerre mondiale.
Oui, c'est très intéressant la façon dont toute la pensée de Freud bascule juste après la Première Guerre mondiale, l'introduction de la pulsion de mort au-delà du principe de plaisir, hein, ce que vous écrivez. Tout d'un coup, Freud, face aux névroses de guerre des soldats de la Première Guerre mondiale, s'aperçoit que son système d'interprétation, son étiologie exclusivement sexuelle des névroses ne fonctionne pas.
Et il introduit il y a plus seulement la libido, mais il introduit la pulsion de mort pour pouvoir arriver à interpréter ces traumatismes de guerre qui résistent, voilà, à la psychanalyse à ce moment-là. Voilà, c'est très intéressant. Après, voilà, les concepts élaborés au XXe siècle par la psychiatrie militaire puis par la psychanalyse, j'aurais tendance à m'en méfier pour. De leur application.
De l'histoire militaire.
Voilà, je ne les emmènerai pas directement au XIXe siècle, parce qu'il me semble qu'il faut se méfier, là aussi encore, d'anachronismes psychologiques potentiels. Le syndrome post-traumatique appliqué au premier XIXe siècle me pose quelques problèmes d'historien.
Oui, oui, et ça, c'est une véritable question sur laquelle nous allons revenir tous les cinq. Dans un instant, on écoute Joséphine Becker, « J'ai peur de rêver ».
J'étais tout seul avec mon affreuse souffrance. Les bras ouverts, je vous priais mon espérance. Je croyais vous saisir, mais vous disparaissiez. Je vous voyais avec une autre près de vous. Elle avait pris. Chérie, ma place à vos genoux. Je crois en vos serments. Je crois que vous m'aimez. Je sais que mon rêve ment. Et pourtant, j'ai peur de rêver.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Je sais que mon rêve ment et pourtant j'ai peur de rêver, dit Joséphine Becker dans ce « J'ai peur de rêver » dans le cadre de notre série et la dernière émission de notre série consacrée à l'histoire des rêves dans la Fabrique de l'Histoire où nous traitons des rapports entre psychanalyse et histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord autour de cette table pour dire il faut historiciser la psychanalyse. Qu'est-ce que ça veut dire historiciser la psychanalyse selon vous, Jacqueline Carroix, aujourd'hui?
Je pense qu'il y a différentes modalités, évidemment, de cette historicisation. En ce qui me concerne, par exemple, ça veut dire essayer d'historiciser Freud dans une histoire des rêves.
Oui, c'est ce que vous avez fait dans votre livre, donc Les Nuits Savantes, c'est une histoire des rêves entre 1800 et 1945, où vous ne prenez pas Freud tout seul, mais vous l'insérez dans un long moment qui va du début du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle.
Oui, et ça me paraît important. Et aussi peut-être comprendre Freud comme un héritier. Lui-même d'ailleurs, enfin si on ne lit pas, si vous avez son maître livre qui est l'interprétation du rêve.
Bien sûr, 1899, c'est ça.
Voilà, 1899-1900. En fait, vous avez un premier chapitre extrêmement long dans lequel il parle de ses précurseurs, entre guillemets, et on ne le lit jamais. Et en fait, moi, j'ai tendance à penser qu'il se prenait aussi pour un héritier. Alors, il essayait de recomposer l'histoire, mais en même temps, il savait bien qu'il avait une histoire et qu'il ne partait de rien.
Qui étaient ses maîtres ou ceux qui, selon vous, Jacqueline Carroix, avaient justement fait de lui un héritier?
Je vais juste donner un nom sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Alfred Maury, qui était quand même un grand... ça a été le grand classique du 19e siècle. C'est-à-dire que les exemples de rêves d'Alfred Maury, vous les trouvez internationalement un peu partout, et Freud les a repris. Donc c'était comme le Freud de l'époque.
Il avait quel titre?
C'était un historien, justement. Voilà. Il était professeur au Collège de France, donc il était le successeur de Michelet au Collège de France. Et donc, mais pour lui, les rêves, c'était un délassement, c'était pas sa spécialité proprement dite. Donc, mais il est devenu célèbre à cause de ce livre qu'il avait élaboré en relation avec les psychiatres de l'époque, la médecine aliéniste, puisqu'il était très proche des aliénistes. Et donc, par exemple, il pouvait comprendre le rêve comme proche de la folie. Et puis ensuite, il essayait de comprendre les mécanismes des rêves, mais il s'interdisait d'interpréter. au moins explicitement. Mais
il prenait note, il notait.
Ah oui, il notait ses rêves.
Et ainsi, comme d'ailleurs énormément de savants, c'est ce que vous racontez dans votre livre Nuit Savante, Jacqueline Carrois, qui au 19e siècle notait leurs rêves, se réveillait même volontairement en pleine nuit pour pouvoir les noter, en l'occurrence. Et ça participait effectivement d'une ambiance dont Freud a hérité, c'est ce que vous dites, Jacqueline
Carrois. Freud notait ses rêves. Et pour lui, effectivement, c'était une vraie, comment dire, c'était un standard scientifique de noter ses rêves. Contrairement à ce qu'ont dit certains psychanalystes qui ont dit qu'il avait une grande audace à noter ses rêves, c'est exactement l'inverse.
Anaïs Kien.
C'est peut-être d'ailleurs un des ressorts, un des intérêts de ce champ psychanalytique pour l'histoire, et d'emblée peut-être les sources de la psychanalyse qui peuvent intéresser l'historien Hervé Mazurel. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez avant qu'on écoute cette chanson. Vous disiez que utiliser le principe du syndrome traumatique, vous posez un problème d'historien dans son usage pour le 19e siècle. On peut donc parler de névroses d'époque dans ce que vous proposeriez, c'est-à-dire des névroses formées en tout ou partie par le moment vécu, par éventuellement aussi le lieu où cela est vécu.
Absolument. Oui, je défendrais complètement l'idée qu'il existe des troubles d'époque, des névroses d'époque, comme l'hystérie l'est, à mon sens, à un moment tout particulier, et comme aujourd'hui pourrait l'être l'anorexie. La montée en puissance des maladies psychosomatiques aujourd'hui dit quelque chose de cela. Mais pour rebondir juste aussi sur ce que disait Jacqueline Carrois, il y a un effort qui me semble déjà très avancé d'historicisation de la psychanalyse, ce que vous avez fait avec de replacer la découverte freudienne dans le contexte de la psychiatrie, de la psychologie, de la sexologie de son temps, et de montrer qu'il est comme un héritier. Et puis il y a un autre pan aussi du travail, à mon sens, qui va dans le sens d'une historicisation de l'inconscient, ce qui est encore un autre travail, un autre champ. Et là, Norbert Elias, dans un texte de fin de vie, nous a laissé un vrai défi de dire, au fond, Freud a pensé que les gens dont il perçait les secrets intimes, les gens de son époque, ceux qu'il analysait, à travers eux, il touchait l'homme universel, l'homme éternel. Et Elias nous dit, mais non, il touche des hommes situés localement, historiquement, géographiquement, culturellement. Ce qu'il faut retrouver, c'est comment a émergé historiquement la structure de la personnalité de ces gens que Freud avait sous les yeux. Mais donc, prenons garde à ne pas postuler la permanence de la vie inconsciente et affective à travers le temps.
Et peut-être prenons garde aussi à ne pas masquer complètement le champ par Freud et ses travaux, et à commencer peut-être cette histoire bien avant la première connaissance qu'on a du travail de Freud. On a parfois l'impression que le freudisme finalement masque aussi en partie peut-être les pistes ou les possibilités d'historiciser cet inconscient, Andreas Mayer.
Oui, absolument, parce qu'on peut faire l'histoire de l'inconscient comme un concept où on peut s'intéresser aux pratiques. Je veux dire, on parle de l'inconscient de manière très différente au XIXe siècle déjà. Et donc Freud s'inscrit quand même dans une filière très, très spécifique.
Dans une filiation.
Dans une filiation, excusez-moi. Oui, voilà. Qui a l'exigence de faire science à partir d'une démarche thérapeutique, qui est l'hypnose à l'époque, la suggestion. Et c'est le projet d'une science expérimentale, d'une psychologie expérimentale qui s'inscrit en faux contre, les philosophies de l'inconscient, etc. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose que Hartmann, que, les philosophes allemands ou romantiques. Donc on est quand même dans une démarche très, très spécifique.
Et donc une démarche là aussi située, comme le disait Hervé Mazurel, culturellement, historiquement, à un moment donné, qu'il ne faut pas prendre comme, selon vous, comme une démarche universelle et qui s'appliquerait à tous les lieux et à tous les moments de l'histoire, par exemple, Andreas Mayer.
Absolument, c'est une... quoique, effectivement, la tentative après de Freud d'épuiser dans la mythologie, le recours à l'Édipe, à la littérature, sont des tentatives d'universaliser ce qui, au départ, très localement situé, Vienne, 1900 ou avant. Donc ça, il faut le prendre comme un développement qui est lié au mouvement psychanalytique lui-même. C'est pas forcément Freud qui, avec toute sa culture, avec son érudition, évidemment, avait les ressources Mais bon, il va chercher quand même beaucoup de disciples, comme Otto Rank, par exemple, qui va écrire tout un sous-chapitre pour l'interprétation du rêve. Donc ça devient un ouvrage avec un co-auteur, hein, ce qu'on a quelque peu oublié aujourd'hui.
Jacqueline Carroix.
Eh bien, aussi en France, pour passer donc de l'autre côté du Rhin, on a des inconscients assez divers. Hein. Enfin, je parle ici d'une histoire conceptuelle. Par exemple, on peut parler d'inconscients liés aux réflexes. Donc, il y a un inconscient physiologique. D'ailleurs, Freud, tout à fait au début, qui est un neurologue, il se réfère à cet inconscient cérébral. Enfin, c'est un travail de Marcel Gauchet là-dessus. Donc, il se réfère à ça. Puis, petit à petit, il va essayer de comprendre que l'inconscient peut être aussi psychologique. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment une démarche qu'on trouve d'ailleurs chez d'autres personnages en France. Par exemple, un psychologue de l'époque, Pierre Janet, fait un peu cette même démarche et cherche à parler d'inconscient psychologique. Et Bergson, le grand philosophe Bergson, lui aussi, commence à dire que l'inconscient, dans ses cours, commence à dire que l'inconscient est purement physiologique. Et puis, petit à petit, il dit... Il y a une psychologie de l'inconscient. Donc, vous voyez que on voit là une histoire de l'inconscient.
Mais qu'est-ce qui fige alors Hervé Mazurel? Qu'est-ce qui fait que à un moment ou à un autre, on va finir par figer cette pensée et considérer qu'elle est universelle et donc applicable à tous les moments, tous les instants de l'histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer justement comment ce qui est décrit ici comme étant une pensée évolutive, qui prend en compte les contextes, qui prend en compte les évolutions de la vie de Freud et de peut-être de ses disciples aussi, devient quelque chose de fixe et qui fait parfois que les historiens se retrouvent confrontés à des résistances, pour reprendre le terme d'Andreas Mayer, des psychanalystes vis-à-vis de leur tentative d'historiciser ce qui se passe autour de l'inconscient et de la psychanalyse.
Je crois que sur le moment, ce qui est très important pour Freud, c'est d'installer la psychanalyse comme une science à part entière, et il a besoin du coup de s'appuyer sur des faits stables et universels. Il y a un moment qui aurait pu être, à mon avis, très important dans l'histoire de la psychanalyse, c'est et ça se joue avec l'anthropologie. L'anthropologie et la psychanalyse ont raté leur rencontre. Le moment où Malinowski, justement, qui a beaucoup aimé la lecture de Freud, mais dit le complexe d'Oedipe n'est pas universel. Regardez, on est dans les îles tout brillants où je travaille. Nous sommes dans une société matrilinéaire. Ce n'est pas l'hostilité du fils ne va pas vers le père, mais vers l'oncle maternel, et le désir ne va pas vers la mère, mais vers la sœur. Ça n'est qu'une variante du complexe d'Oedipe, mais ça veut dire que le complexe d'Oedipe tel que vous défendez n'est pas universel. Et là, ça aurait pu, à partir du moment où il y a variation culturelle, il y a variation historique, et Freud envoie et Ernest Jones et Geza Hoheim répondre assez fermement à Malinowski pour essayer de verrouiller cette histoire d'universalité du complexe d'Oedipe, pour faire en sorte que ça soit fixe et stable et que du coup le statut de science de la psychanalyse ne soit pas menacé. Je pense que là se joue quelque chose d'assez capital, et puis ensuite la discipline ne va pas réinterroger ses postulats premiers en quelque sorte.
Andreas Mayer.
Oui, tout à fait. Hein. Bon, c'est déjà tout et mes tabous
qui fige.
Qui dogmatise le complexe d'Oedipe, parce que en tant que donnée universelle.
Et en quoi sentez-vous encore, vous qui tentez les uns et les autres d'historiciser cette donnée psychanalytique et cette discipline psychanalytique, en quoi sentez-vous des résistances? Vous vous trouvez confronté dans vos colloques, dans vos discussions à des psychanalystes qui, disons, ne veulent pas trop de cette historicisation, et puis d'autres qui l'acceptent, Andreas Mayer?
Oui, je pense que c'est très variable, et je pense que ça évolue aussi, parce que je me souviens, il y a 20 ans ou 25 ans, la résistance était encore plus forte contre une certaine histoire de la psychanalyse qui se voulait critique. Je pense qu'on a trop souvent, là aussi, figé deux camps, hein, un camp de hagiographe, un camp de critique qui voulait de façon iconoclaste détruire l'image de Freud. Je pense qu'on a dépassé ce stade un peu stérile qui domine encore dans beaucoup de cercles. Et je pense qu'on peut faire une histoire critique de la psychanalyse sans la dénoncer, hein, et tout en valorisant les découvertes freudiennes, en la replaçant dans leur contexte. et aussi en libérant un peu les psychanalystes, si j'ose dire, des lectures canoniques qui, il faut pas l'oublier, sont liées à des éditions souvent fautives, des éditions tronquées. Non, mais il faut quand même le dire.
On n'a pas d'édition critique. Si cette histoire critique est possible, peut-être que le problème est ailleurs, du côté des historiens en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'impudeur dans le fait de s'emparer de sujets qui touchent à la psychanalyse ou à l'inconscient, Jacqueline Carrois? Vous disiez avant l'émission qu'à chaque fois que très souvent les étudiants se mettaient à vous raconter leurs rêves. Donc là, on sort finalement de cette relation académique préécrite où tout à coup les gens se livrent peut-être plus facilement à une parole sur eux-mêmes et sortent de leur, déposent leurs habits d'étudiants, d'historiens, de scientifiques d'une certaine façon, en se mettant en cause eux-mêmes en parcourant leur objet.
Je pense que c'est lié au fait que nous vivons dans une culture imprégnée de psychanalyse, c'est-à-dire que notre psychologie commune maintenant est psychanalytique.
Vous voulez dire que la psychanalyse a réussi au point que chacun d'entre nous l'a intégrée sans même en avoir
absolument, fait. Absolument. Et moi, par exemple, quand j'ai abordé les rêves au XIXe siècle, il a fallu que je me déprenne
de mes lectures
et que je me déprenne de Freud pour essayer de me poser la question comment des hommes, puisque j'ai surtout affaire à des hommes, puisque je parle des savants à cette époque, comment des hommes comprenaient leurs rêves, comment ils les notaient, etc.
Avant Freud,
voilà. Donc vous voyez, c'est très compliqué parce que je crois qu'on est aussi dans ce type de culture et que c'est pas du tout simple de prendre un peu de recul. Alors on y est, c'est comme ça, mais voilà.
Hervé Mazurel.
Oui, je pense que c'est toujours compliqué de s'attaquer à une figure aussi emblématique que Freud et à la psychanalyse pour ces raisons-là, parce que la psychanalyse est finalement partout, sa présence est partout, même si elle est très contestée, même si elle se vit comme une citadelle assiégée en permanence, elle est au fond partout. Mais par exemple, c'est très compliqué pour quelqu'un qui vient de l'histoire de la vie affective, de l'histoire des sensibilités, dire comment se fait-il que nous n'arrivons pas à discuter avec des psychanalystes qui s'y connaissent en matière d'affect. Il y a vraiment un barrage, c'est deux mondes qui s'ignorent totalement.
Vous exagérez la distance?
Ah non, je crois pas. Non, vraiment, et pourtant on en invite au séminaire, mais nous n'arrivons pas à nous parler parce qu'il y a ce problème de l'historicité potentielle de la personne. Par exemple, pour mener à bien une vraie histoire psychanalytique, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être sujet ou qu'est-ce que c'est qu'être une personne à telle ou telle époque. Et on a des travaux, les travaux de Jean-Pierre Vernant, les travaux de Jérôme Machet qui montrent bien que le moi moderne,
Corseum,
qui est un magnifique livre, nous dit, au fond, le sujet médiéval, il n'existe pas avant les relations sociales. Il est d'emblée dans les relations sociales. Donc le moi moderne sur lequel est appuyée la psychanalyse n'existe pas au Moyen-Âge. Donc on ne peut pas faire une
histoire. Transcrire.
Voilà, on ne peut pas. Et donc voilà, c'est des types de résistances avec lesquelles on a du mal à...
Jacqueline Carrois, puis Andreas Maillard.
Je dirais la même chose sur le 19e siècle, en partie. C'est-à-dire que même si le 19e siècle nous est très proche, il faut aussi historiciser.
C'est l'étrangeté de ce
19e
siècle.
Oui, il faut le recréer un peu comme étrange, le 19e, pour le dire comme cela. Et d'autre part, je suis aussi, moi, confrontée quelquefois à des réactions qui consiste à dire que l'historien relativise, et ça c'est très mauvais. Le relativiste de service, c'est très mauvais.
C'est-à-dire que vous considérez que vous ne relativisez pas, en l'occurrence.
Mais non, mais
vous
non.
Historiciser, ça n'est pas relativiser.
Mais contextualiser ne veut pas dire détruire.
Ça veut dire qu'il y a une désacralisation qui
désacralise.
Il y a une désacralisation, une démythification qui déplaît.
Anaïs Kien.
Et puis il y a peut-être aussi une mise en péril d'un des exercices élémentaires de l'histoire et de l'historien, Hervé Mazurel, c'est la mise en récit. La mise en récit devient beaucoup plus compliquée à partir du moment où on prend en compte les incohérences, les incertitudes, les fantasmes, les peurs, les prises de décision, les logiques d'action qu'on n'arrive plus à décrire finalement.
Vous voulez dire dans le que je suis sûr d'avoir bien compris la question
dans le récit de l'historien. Cet inconscient en tant qu'objet historicisé, la mise en récit à laquelle se prête l'historien régulièrement devient bien plus complexe.
Extrêmement compliqué.
Là, on fait imploser finalement cette ligne de récit qui est pourtant si chère à l'écriture de l'histoire.
On est obligé de retrouver au plus près les catégories des acteurs du temps et de les penser en quelque sorte, voilà, au plus près du langage d'époque si on veut arriver à toucher.
C'est vrai que cela devient presque impossible.
Et en même temps, il se faut aussi être un traducteur, un passeur entre deux mondes, ce passé-là et les lecteurs d'aujourd'hui. Donc c'est tout le travail de l'historien.
Andreas Maier.
Bon, c'est précisément en fait, un problème dès qu'on est confronté à un monde comme celui des psychanalystes. Qui applique une terminologie, donc qui applique leur propre terminologie à leur propre vie affective, qui fait partie donc d'une recherche, d'un processus donc de recherche pour eux, hein, spécialement dans sa formation, dans ses années de formation, les années héroïques, on pourrait dire. Donc comment rendre compte, comment, qu'est-ce qu'on va dire, donc est-ce que le transfert des psychanalystes, est-ce que c'est des émotions? Est-ce qu'on tombe dans l'histoire des émotions qui est actuellement la tarte à la crème chez les historiens? Non, mais en fait...
Que faire du transfert quand on est historien?
Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que... Où on parle du contre-transfert de l'historien envers le fait historique, comme le problème de Friedlander, si on veut revenir là-dessus. En fait, est-ce que c'est... Voilà. Donc, quoi faire avec donc la terminologie technique, le vocabulaire technique de la psychanalyse? Ou est-ce qu'on dit, comme d'autres, on dit, voilà, c'est juste de la suggestion, c'était de la simulation, les patientes ont juste trompé Freud, ils croyaient voir quelque chose, mais c'était autre chose. Donc, on a plusieurs couches d'une réalité. Hein, donc, on est confronté à ça.
Et donc, ça complexifie le travail de l'historien.
Voilà, ça complexifie énormément le travail de l'historien. Mais je crois, comme l'avait dit Jacqueline Carrois, il faut oublier ou il faut se déprendre un peu de son propre appareil conceptuel, y compris la psychanalyse, mais aussi la sociologie ou l'histoire culturelle, quoi que ce soit. Et il faut d'abord travailler les sources et revenir avec son bagage conceptuel, et après on fabrique, voilà, on fabrique...
Son histoire.
On bricole, voilà, non,
c'est ça. Jacqueline Carrois, puis Hervé Mazurel.
Il faut aussi prendre en compte le langage des acteurs, et même les psychanalystes, puisque c'est des acteurs de notre histoire, et donc il faut essayer de comprendre comment il crée quelque chose à partir de ce langage et il crée un nouveau psychisme à certains égards. Hein. Si on prend par l'exemple des rêves justement, c'est quand même très intéressant de voir que ils dialoguent entre eux à partir de leur récit de rêve, Freud et Jung par exemple. Donc il y a une sorte de nouvel usage des rêves.
De nouvelle orthographe ou de nouvelle grammaire qui passe par cette question-là.
Par cette question-là. Donc je crois qu'on ne peut pas non plus dire que nous allons appliquer nos propres catégories. Il faut aussi comprendre le statut de ce langage psychanalytique qui structure une culture psychanalytique.
Et donc, s'en déprendre là aussi, ou la comprendre et faire
les
en sorte...
Les deux, mon général.
Hervé,
c'est une question extrêmement difficile.
Je ne le voyais pas en général, mais je suis content.
Il faudrait prendre ces concepts avec des pincettes historiques. Il y en a qui sont plus ou moins chargés. Je pense quand on parle de défense, ou d'occultation, ou de refus de voix, ou de déni, c'est moins chargé que d'employer, par exemple, le concept du complexe d'Oedipe, qui tout d'un coup fait croire à une permanence de la structuration de la famille et de l'identité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Voilà, donc, Il y a des concepts plus ou moins chargés que d'autres.
Mais vous pensez que vos travaux, et on va terminer là-dessus peut-être à vous trois, vont permettre justement un meilleur dialogue, parce qu'on voit bien qu'il y a des tentatives de dialogue qui échouent régulièrement, qu'il y a
une relation avec les psychanalystes. Voilà. En fait.
Et donc, est-ce que vous pensez que ça peut s'arranger justement, parce que est-ce que cette question de l'historicisation peut pénétrer dans la discussion de façon plus ample qu'auparavant, Hervé Mazurel, ou est-ce que c'est peine perdue?
J'ai l'impression que votre travail, à tous les deux, peut porter, puisque les psychanalystes ont longtemps refusé que d'autres écrivent l'histoire de leur discipline. Mais vous en êtes tellement bien emparé que je pense qu'ils peuvent entendre ce travail-là. Historiciser l'inconscient, je pense que j'ai rencontré beaucoup de résistance. Des psychanalystes viennent un peu écouter et me disent, à la fois, on partage beaucoup, mais voilà, ils me disent que ça provoque d'emblée des résistances fortes chez eux.
Donc,
je pense
que
c'est autant au pire.
Voilà, moi je pense qu'on a fait quelques pas pour sortir de l'antinomie entre la profession historienne et...
On a compris, et c'est ce qu'on voulait faire ici d'ailleurs.
J'ai dit on a fait quelques pas, hein. En Angleterre on dirait it takes three generations to make gentlemen, donc c'est la question, et voilà, qu'est-ce que les générations futures vont faire.
Rendez-vous en 2060, c'est ça voilà. Jacqueline Carrois.
Oui, je crois que c'est aussi une question de transmission à des historiens, et c'est vrai que ce serait bien que existe un domaine qui s'occupe de ces questions, parce qu'on est quand même aussi quelquefois, enfin peut-être moi je suis d'une génération antérieure, et c'est vrai que je me suis sentie à certains moments un peu esseulée, mais bon, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin tranquillement, mais ce serait bien que ça se transmette.
Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on crée une sorte de sous-discipline des travaux qui travailleraient sur ces rapports avec la psychanalyse et les concepts psychanalytiques.
Ce serait intéressant que les historiens s'emparent de la psychanalyse, mais gentiment.
Supplémentaire plutôt, l'agréger.
Oui, c'est ça. À leur propre boîte à outils conceptuelle. Merci à vous, Anaïs Quien. Merci à vous, Jacqueline Carrois. Je rappelle que votre histoire des rêves, donc entre 1800 et 1945, s'appelle Nuit savante, qu'elle est publiée depuis 2012 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, et que c'est un véritable régal que de plonger dans ces rêves des savants du 19e siècle, dont Freud fait partie. C'est ce que vous nous avez expliqué depuis le début. Andreas Mayer, on peut lire entre autres avec Lydia Marinelli, Rêver avec Freud, c'est chez Aubier. Vous avez publié un Freud, mais en allemand récemment.
Oui, et ça va sortir en français l'année prochaine.
Eh bien écoutez, on le lira avec beaucoup de plaisir. Quant à vous, Hervé Mazurel, on va vous laisser rédiger les derniers chapitres de votre ouvrage qui paraîtra l'année prochaine à la Découverte, L'inconscient et l'histoire, essai d'histoire des profondeurs. Merci beaucoup. On a terminé ainsi cette histoire des rêves, mais je pense qu'on pourrait y revenir parce qu'il y a quand même pas mal de sujets que nous n'avons pas encore eu le temps d'aborder. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, on devrait parler des directions de conscience, des directeurs de conscience. Ça nous permettrait de reprendre différemment cette question-là. Et il y a d'ailleurs une thèse qui est en préparation sur les directeurs de conscience. On verra. C'est dans les tuyaux. On est parti. Merci beaucoup à tous et à toutes. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marseille, Alexandre Dang nous a accompagnés à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Demain, dans l'émission d'actualité du vendredi, nous vous parlerons entre autres d'une grande manifestation qui aura lieu la semaine prochaine, le week-end prochain, pas ce week-end mais le week-end d'après, donc à Toulouse, qui s'intitule « L'histoire à venir », mais bien d'autres sujets seront également au programme de l'émission de demain.